je vais vous présenter en quelques mots Bruno Tertrais. Et pour tout dire, cela relève de la gageure pour deux raisons. Nombreux sont ceux dans cette salle qui le connaissent aussi bien que moi. Pour les autres, que dire de lui en quelques phrases seulement ? Après son diplôme de Sciences Po et sa maîtrise de droit public, il a préparé son doctorat en sciences politiques sous la direction de Pierre Asner. Il a commencé sa carrière à la direction des affaires stratégiques du ministère de la Défense, puis il a rejoint l'Assemblée de l'OTAN avant d'être recruté en 2001 par la Fondation pour la recherche stratégique, dont il est aujourd'hui le directeur adjoint. Il a publié de nombreux articles et de nombreux ouvrages, notamment en 2023, « La guerre des mondes ». Ce qui m'a toujours fasciné chez Bruno Tertrais, c'est sa capacité à s'investir avec brio dans des sujets très divers, mais tous liés, de près ou de loin, à la géopolitique. Il va nous en donner aujourd'hui une brillante démonstration en traitant un thème absolument essentiel, la transformation démographique du monde et son impact géopolitique. Dans le fond, si je devais conclure d'un mot, je dirais que Bruno Tertrais est une parfaite réincarnation des encyclopédistes du XVIIIe siècle. Cher Bruno, à vous la parole.
Merci beaucoup, cher Jean-David. Je ne sais pas si je dois être honoré, je le suis certainement, mais cette barre que vous venez de fixer est quand même particulièrement haute. Non, je suis très honoré d'être devant vous ce matin, d'autant plus que, d'abord, il y a beaucoup de personnalités ici que j'ai connues, que je connais toujours, qui ont compté dans mon éducation intellectuelle. Certains sont devenus des camarades, presque des amis. Par ailleurs, moi, je ne suis qu'un démographe amateur. Alors, Jean-Robert Pitt sait que je suis un géographe amateur. Je vous annonce que je suis aussi un démographe amateur. En fait, je ne suis pas démographe. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de démographie. Pourquoi ? Parce que je pense que le sujet est trop sérieux pour être laissé aux démographes. Et je me souviens qu'il y a quelques années, lorsque j'essayais d'alerter nos autorités politiques à un niveau assez élevé sur le fait que très prochainement, avant les élections de 2027, la courbe de la natalité et celle de la mortalité en France allaient se croiser, sans doute plus vite que ce que le président prédisait les démographes, on m'écoutait d'une oreille distraite. Eh bien voilà, maintenant c'est dans l'actualité presque tous les jours. J'aurais pu commencer et faire peut-être toute cette intervention à partir de deux citations du livre des Proverbes. C'est bien de commencer par les Proverbes. La première, la gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets. Vous la connaissez. L'autre est moins connue. La dépopulation ruine le prince. Alors je pense qu'il y en a une qui est juste et l'autre qui est beaucoup plus contestable. Je vous laisse essayer de deviner laquelle. Je ne vais pas vous abreuver de transparent, mais c'est difficile de parler de démographie sans quelques illustrations. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par deux, trois planches de situation. Je ferai une première partie, une série de slides, comme on dit aujourd'hui, de planches, une deuxième partie et une deuxième série de planches sans vous abreuver de chiffres parce que les tendances sont plus importantes ici que les chiffres, à mon sens. D'abord, un petit rappel, je ne sais pas. Ah oui, c'est très bien fait ici, décidément. L'Académie est à la pointe du progrès, on voit de partout. C'est encore mieux que chez McKinsey. C'est beaucoup mieux que chez McKinsey. Ça, c'est la croissance de la population mondiale, à la fois en pourcentage et en nombre. Vous voyez le contraste entre les deux. L'effondrement de l'augmentation de la population mondiale est un phénomène relativement nouveau qui va très rapidement. Ce sont des projections à droite, évidemment. Nous y reviendrons tout à l'heure. L'urbanisation, ce transparent n'est pas très clair de loin, mais souvent, ce que je vous montrerai, c'est la forme des courbes et la forme de ce qui est représenté plutôt que les chiffres qui sont importants. Ça, c'est le nombre de villes de chaque catégorie, plus de 10 millions en vert clair, 5 à 10 millions en vert moyen, 1 à 5 millions en vert plus foncé, etc., etc. L'urbanisation de la planète est parmi les phénomènes démographiques les plus importants de l'histoire de l'humanité. Depuis 20 ans environ, les hommes et les femmes vivent en ville ou en zone urbaine, plus de 50%. Ça, c'est quelque chose aussi de tout à fait fondamental. Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit un petit livre sur ces questions-là il y a quelques années, c'est que nous sommes vraiment à une période fondamentale, non seulement pour nos générations, mais aussi, je pense vraiment, pour l'histoire de l'humanité. Et enfin, où vivons-nous ? La planète est sous-peuplée dans les faits. Il y a très peu d'endroits où cette population urbaine ou rurale est concentrée. Les deux grandes zones de population mondiale, ce sont les plaines de l'Himalaya, très riches en alluvions, donc développement d'agriculture, etc. L'Uttar Pradesh, notamment, cet État indien. Et bien sûr, les plaines côtières de Chine, juste en haut à droite. Mais lorsque vous voyez cette représentation, que je trouve assez visuelle, on a le sentiment qu'il y a de la place. Alors, évidemment, tous les terrains ne sont pas favorables à l'implantation et à l'activité humaine. Mais le surpeuplement est une notion locale, à mon sens, plutôt que globale, y compris lorsqu'on parlera des ressources. Alors, trois évolutions majeures que je vais vous résumer très rapidement parce que vous en avez déjà entendu parler, mais je vais vous donner une idée plus précise de leur ampleur. Première évolution majeure, la baisse de la fécondité. Attention, peut-être que tout le monde ne connaît pas la différence entre fertilité, fécondité, fécondité finale, descendance finale et natalité. Lorsqu'on parle du taux de fécondité dans les médias, ce n'est pas un taux, d'abord, c'est la fécondité conjoncturelle. On ne connaît, pour des raisons biologiques, la descendance finale d'une génération entière que très longtemps après. Donc, les indicateurs de fécondité vous donnent une idée des tendances, mais ne vous disent pas ce que sera le nombre d'enfants dans 10, 20 ou 30 ans. Cet indice conjoncturel de fécondité, ICF, comme disaient les démographes, est quand même un instrument utile pour voir les tendances. On s'approche aujourd'hui, c'est pour ça que la période est historique, on s'approche aujourd'hui de ce qu'on appelle le taux de remplacement, qui est à peu près de 2,1 avec des variations, mais en gros, c'est 2,1. Vous connaissez ce chiffre, vous en avez déjà entendu parler. Au niveau mondial, nous sommes en train d'arriver au taux de remplacement, en moyenne mondiale évidemment. Pourquoi ça mériterait une conférence entière? Les démographes, les sociologues, les économistes s'empaillent sur le sujet. J'ai bien envie d'y revenir, non pas une conférence, dans un petit ouvrage prochainement. J'ai envie de dire qu'il y a, il y a Marx et Hegel. Il y a les causes matérielles et les causes plus profondes, celles des idées. C'est un vrai sujet que je ne vais, pas trancher ici. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il puisse être tranché. J'essaierai bien au-delà de ce que je peux faire aujourd'hui. Deuxième évolution majeure, nous savons désormais avec une quasi-certitude que le pic de la population mondiale est maintenant en vue. Quand vous êtes en montagne, vous voyez le sommet, voilà, c'est votre but. Parfois, il est loin, mais quand vous le voyez, vous dites « Ah, ça y est, je vois, je commence à matérialiser cette perspective ». Il interviendra quelque part entre 2050 et 2080, selon les estimations, c'est très compliqué. Ce sont des modèles, bien sûr, qui ne donnent pas des dates précises, mais en gros, on sait maintenant que le pic, c'est entre 2050 et 2080. Et avec une population en 2100 qui pourrait être comprise entre 9 et 11 milliards, là encore, avec beaucoup de prudence. Rappel aussi, pardon pour ceux qui connaissent cela par cœur, que la taille d'une population dépend de deux soldes, un solde naturel, naissance-décès, et un solde migratoire, entrée-sortie. Ça a l'air simple, mais il faut toujours garder ça en mémoire quand on parle de la taille d'une population totale. Troisième évolution, le vieillissement s'accélère. Disons que l'humanité avance en âge. J'aime pas trop le mot vieillissement. Quand on commence à avoir des cheveux gris, ben voilà, on n'aime plus trop le mot vieillissement. On va dire que l'humanité avance en âge. Et ça aussi, c'est évidemment un phénomène majeur pour des raisons en grande partie liée à la médecine, aussi à l'alimentation, mais aussi parce que le nombre de naissances diminue et que donc, ben voilà, la moyenne, l'âge moyen de l'humanité augmente. Sur la question des migrations, les phénomènes locaux ou régionaux ou nationaux ne doivent pas masquer une tendance mondiale qui est assez claire, c'est une stabilité. Hors conflits armés, la Syrie, par exemple, l'Ukraine, bien évidemment, le nombre de personnes qui deviennent des migrants, alors migrants, ça, c'est un mot qui a une définition très précise, hein, c'est la définition de l'ONU, c'est une personne qui passe au moins un an hors de son pays de naissance. Donc le mot migrant est un terme tout à fait neutre, et c'est comme ça que l'ONU l'utilise. Il y a une extrême ou une très grande stabilité du pourcentage de migrants dans le monde. Je vous montrerai tout à l'heure un petit transparent, mais le taux aujourd'hui, enfin aujourd'hui 2024, parce que les statistiques mettent du temps à arriver, c'est 3,7%. Ça n'est pas un phénomène aussi élevé que ce que l'on pourrait penser. Bien évidemment, ça reflète des réalités locales très différentes. De même que les grands pays de départ et d'arrivée sont un peu toujours les mêmes. Les pays de départ, l'Inde, le Mexique, la Chine, pas forcément les pays auxquels vous auriez pensé tout de suite, les pays d'arrivée, les États-Unis, l'Allemagne et l'Arabie saoudite. Et il y a une très grande stabilité depuis une vingtaine d'années dans cette hiérarchie. Ce qui change, en revanche, c'est que de nombreux pays de départ deviennent des pays d'arrivée ou de transit. Vous connaissez bien les cas de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne, par exemple, mais c'est aussi le cas du Maghreb, puisque l'immigration d'Afrique subsaharienne devient localement un vrai sujet au Maghreb. Et il y a aussi, c'est l'autre évolution, beaucoup de retours. Aujourd'hui, ça n'est plus l'immigration mexicaine qui est un problème aux États-Unis. Le problème politique qui a été posé à l'occasion de l'élection qui a permis à M. Trump de revenir au pouvoir, ce n'était pas une immigration mexicaine. C'était une immigration sud-américaine et parfois syrienne, afghane ou autre. Mais les Mexicains sont aujourd'hui plus nombreux à revenir au Mexique qu'à aller aux États-Unis. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que le Mexique s'est développé. Et la relation entre revenu moyen par habitant et migration est assez bien établie. C'est d'ailleurs un sujet que je crois que sur une question qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, la migration de l'Afrique vers l'Europe. Je crois qu'il faut rétablir deux, trois choses. C'est vrai que cette migration, notamment depuis l'Afrique subsaharienne, augmente. Mais ce n'est pas parce que l'Afrique s'appauvrit, c'est parce qu'elle s'enrichit. Le mot peut paraître un peu provocateur, mais c'est l'augmentation du revenu moyen par habitant en Afrique subsaharienne qui permet aux Africains qui souhaitent migrer hors de leur pays d'aller plus loin. Alors, quand ils ont un petit peu plus d'argent, ils vont vers le pays voisin. Encore un peu plus vers la région voisine. Par exemple, le Golfe de Guinée, la région du Golfe de Guinée, est un attracteur de migration, notamment depuis la zone du Sahel. Et puis quand ils ont encore un petit peu plus, je vais pas dire riches, mais en tout cas un petit peu plus de moyens, vous pouvez faire le voyage vers l'Europe, qui est très coûteux. C'est pour ça que souvent ce voyage est un voyage qui va au sein d'une famille, par exemple. On va ensemble désigner la personne qui va être chargée d'émigrer, de s'installer dans des communautés existantes et de faire vivre une partie de son environnement familial. Vous vous souvenez peut-être d'un ouvrage d'un ancien journaliste et très bon connaisseur de l'Afrique, qui s'appelait Stephen Smith, qui avait écrit « La ruée vers l'Europe » il y a quelques années. Alors, Stephen, moi je dis en plaisantant, parce que c'est un garçon délicieux, et il est très bon sur les lettres et très mauvais sur les chiffres. C'est-à-dire tout son raisonnement, son livre est intéressant, c'est un vrai connaisseur de l'Afrique. Mais ces chiffres n'ont aucun sens. Mais aucun sens. Je les ai démontés avec minutie, parce que je fais partie des gens qui ne détestent pas les chiffres, sinon je ne parlerai pas de démographie. Mais présenté, je me souviens qu'il avait dans un entretien à un grand quotidien du matin, il avait présenté l'Afrique, je cite, comme une salle d'attente de 2 milliards d'individus en partance pour l'Europe, ce n'était pas sérieux. Je ne vais pas vous faire toute la démonstration. Mais dire, par exemple, comme j'entendais un célèbre prospectiviste, un homme aussi très respectable, il y a quelques années, si seulement 1% de la population africaine chaque année migrait vers l'Europe, et avec des totaux, évidemment, sauf que le taux de migration africain, il est assez stable, il est de 0,07, il n'est pas de 1%. Bon. Tout ceci pour dire que le phénomène est réel, la migration de l'Afrique vers l'Europe augmente, mais dans des proportions qu'il faut mesurer. D'ailleurs, ça me permet de rappeler une évidence qui n'en est pas une pour tout le monde, semble-t-il, c'est que la démographie, ce ne sont pas des vases communicants. Dire, comme le disait déjà Alfred Sauvy, dire qu'en gros, il y a une Europe qui se sous-peuple et une Afrique qui se surpeuple, et que donc, forcément, les vases vont communiquer dans le mauvais sens, ça n'est pas comme cela que les migrations fonctionnent. Ce n'est pas une question de nombre absolu. On pourrait parler aussi de Chine-Russie, Voilà, l'idée d'une Chine surpeuplée qui se déverserait vers l'extrême-orient russe, ça ne correspond pas à une réalité. D'ailleurs, la Chine, à mon avis, a plus à craindre aujourd'hui de son dépeuplement que de son surpeuplement. Reste un point quand même important, c'est que nous sommes évidemment ici, nous, Européens, bien davantage intéressés par le mouvement Afrique-Europe. Mais bien sûr, il y a d'autres grandes migrations qui sont extrêmement importantes avec des conséquences politiques et géopolitiques. Amérique centrale vers les États-Unis, j'en ai parlé. Les Bangladais vers l'Inde, des mouvements extrêmement importants en nombre. Ou encore les centra-asiatiques, pardon de cette expression un peu rapide, les ressortissants d'Asie centrale qui vont travailler en Russie. La Russie est un carrefour migratoire. Il y a énormément d'immigration d'Afrique centrale vers la Russie, ce qui pose d'ailleurs là aussi, comme dans d'autres grands pays, des questionnements politiques. Et il y a aussi, bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure, beaucoup de Russes qui partent. Ces évolutions mondiales, elles masquent des évolutions régionales sur lesquelles je vais quand même, avant d'aborder les conséquences géopolitiques, proprement dites, quelques vignettes importantes. Il y en a une que j'ai résumée sous le titre pas très drôle, enfin sous le thème pas très drôle, de l'effondrement de l'Eurasie. Car, en gros, de la Bretagne au Kamtchatka, y compris le Japon, la Corée et la Chine, eh bien, c'est un monde qui s'effondre sur le plan de la population. À Séoul, l'indice conjoncturel de fécondité, nombre moyen d'enfants par femme, est tombé à 0,6. C'est un record mondial. Voilà, les Coréennes ont choisi de ne plus faire d'enfants. J'exagère à peine. La natalité en Chine s'effondre également. Je crois que maintenant, c'est bien connu. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe beaucoup plus rapidement que l'anticipaient la plupart des démographes il y a encore 10 ans. Mais c'est extrêmement rapide. Alors, on est tenté de dire « Ah ben oui, mais c'est la politique de l'enfant unique ». Eh ben non, pas du tout. Ça n'est pas la politique de l'enfant unique. Ça avait déjà commencé bien avant. La Chine a suivi en accélérant une trajectoire que d'autres pays d'Asie de l'Est ont suivi. Donc il y a peut-être un aspect culturel, mais l'aspect politique de l'enfant unique a très peu joué. Et d'ailleurs, lorsqu'elle a été abandonnée, eh bien, pas grand-chose ne s'est passé. Ça descend même encore plus vite. Et la situation de la Chine aujourd'hui, je l'ai vue décrite comme, la formule est jolie, mais je ne vais pas m'approprier, sans équivalent depuis les conquêtes mongoles. Belle formule, j'aurais bien aimé la trouver moi-même, je préfère la citer. La Russie, évidemment, ce n'est pas mieux. En étant à peine trop sévère, la Russie, j'ai eu envie, au début de la guerre en Ukraine, et surtout en septembre 2022, d'écrire l'opération russe comme étant aussi une opération d'ingénierie démographique. Pourquoi ? Parce que c'est une opération, une guerre, une invasion brutale, qui permet d'annexer des territoires et donc d'augmenter artificiellement sa population. C'est exactement ce que font les bilans démographiques russes. Ils ajoutent en ce moment la Crimée les quatre autres oblasts ukrainiens annexés, prétendument annexés depuis lors. Ce sont les enlèvements d'enfants, une des tragédies humaines les plus touchantes, probablement, de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça n'empêche, si c'était conçu, ce qui m'étonnerait, comme une opération d'ingénierie démographique, c'est quand même raté, puisque le nombre de tués, de blessés russes et le nombre d'émigrés, probablement pour plusieurs années, de départ depuis la Russie, ne compense absolument pas cette prédation démographique. Enfin, l'Europe, la situation très particulière que connaissaient depuis 30 ans les pays d'Europe centrale et orientale est en train de bouger un peu. Ce que je m'explique. Après la rupture majeure qui a représenté pour ces pays la sortie du communisme, ces pays ont connu ce que j'appelle la triple peine démographique. Davantage de mortalité, moins de natalité et davantage d'émigration. Donc les deux soldes naturels et migratoires s'effondraient. C'est en train de se rétablir un peu, mais vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai sur une carte, ils sont quand même dans une situation encore très peu favorable. Quant à l'Europe dans son ensemble, elle est entrée, là j'utilise un terme de démographe, en 2015, elle est entrée en dépopulation, mais pas en dépeuplement. Qu'est-ce que ça veut dire, dépopulation ? Ça veut dire que le solde naturel est négatif au niveau européen. Autrement dit, si la France, cette année, a un solde naturel négatif, elle rejoindra la norme, entre guillemets, européenne. Et non pas en dépeuplement, ça veut dire que la population continue d'augmenter. Pourquoi ? Vous l'avez deviné, bien sûr, parce que le solde migratoire, lui, reste positif. Donc on dit dépopulation, mais pas dépeuplement. Enfin, l'Afrique. L'Afrique sera le seul continent dont la population va continuer à croître pendant encore très longtemps, pendant plusieurs décennies, parce que la démographie, on le dit souvent, c'est un peu comme un tanker, hein, les mouvements sont prévisibles, mais extrêmement lents et longs. La fécondité commence très sérieusement à baisser dans la plupart des régions d'Afrique, mais le tanker, ça met du temps à changer véritablement de route. Et donc, on pourra dire qu'entre le début du 19e et la fin du 21e, il y aura eu une inversion totale dans le rapport numérique entre l'Europe et l'Afrique. En 1900, l'Europe est relativement peuplée et l'Afrique très peu peuplée. En 2100, ça sera l'inverse. Alors, avec des chiffres différents, mais le ratio sera à peu près le même, nonobstant ce que je vous disais tout à l'heure sur, attention, ce ne sont pas non plus des vases communicants. Quelques transparents pour illustrer mon propos. Donc, vous voyez ici un pays en bleu foncé, c'est bien entendu le Niger, qui avait encore, en 2025 en tout cas, la fécondité la plus élevée au monde. Hein. Et ce transparent est assez parlant. Hein. Ce qui est bleu, ça croît, ce qui est jaune, ça croît beaucoup moins vite. Ça, c'est la fécondité en ICF. Bienvenue à Maradi. Maradi, c'est le record du monde de la fécondité mondiale. Et c'est quelque chose sur lequel je voudrais m'arrêter deux secondes, parce que on pense que c'est parce que seulement, ou en grande partie, parce que les femmes veulent avoir des enfants, ou ne peuvent pas s'empêcher, ou n'ont pas la liberté, surtout, d'avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent. Et on ne pense pas assez souvent aux hommes. Il y a une pression sur les hommes, une pression culturelle en Afrique, dans notamment cette région sahélienne, pas seulement, qui fait en gros comprendre à beaucoup d'hommes que s'ils veulent être considérés comme quelqu'un d'important, ils doivent avoir entre 10 et 20 enfants. Donc le référentiel masculin, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, l'accès à l'éducation, l'accès à la contraception et l'accès à la liberté tout court, c'est fondamental, c'est ce qui est le plus important. Mais quand on parle de la fécondité, même si ce sont les femmes qui portent physiquement, pensons aussi à la responsabilité des hommes, tout simplement. Et il y avait une enquête dans cette petite ville de Maradi, et je me souviens qu'il y avait une situation que la journaliste avait beaucoup entendue, c'est « Pourquoi est-ce que je m'arrêterais ? Pourquoi est-ce que je ferais moins d'enfants ?» Et cette situation était intéressante, parce que l'idée de dire « Après tout, pourquoi pas ?» parce que c'est la nature et c'est comme ça qu'on est une grande famille avec donc, avec tous les, bien sûr, tous les déterminants économiques qu'on connaît. Les enfants, c'est des bras pour l'agriculture et c'est aussi un soutien quand on devient plus âgé. Ça sera la seule dans laquelle j'ai une petite vidéo, c'est le Financial Times qui avait fait. Ça, je vais vous la passer deux, trois fois parce que c'est assez intéressant. C'est la fécondité l'ICF, donc l'indice conjoncturel de fécondité, TFR, Total Fertility Rate, et l'âge moyen en bas. Donc l'ICF à gauche et l'âge moyen en bas. Vous voyez le mouvement des différents pays entre 1955 et 1900 et 2020 ou 30, 2030. Pardon. Vous voyez que c'est un mouvement mondial. On voit aussi que la rapidité de la décroissance de la fécondité, elle était très différente selon les pays. Là, ce sont les courbes qui vous montrent le temps passé, le temps qu'il a fallu pour passer de 6, ICF 6, à 2,1, 2,1, donc à peu près le taux de remplacement, moyen. Ça a été très lent aux États-Unis, Ça va être aussi très lent au Nigeria, juste en dessous. C'est pour ça que le Nigeria va devenir un des plus grands pays au monde, par la taille. Ça est extrêmement rapide en Chine et en Corée du Sud. Donc chacun a son rythme. La tendance est générale, la moyenne est claire, mais la rapidité est très variable. Alors c'est assez impressionnant. Hein. Ça, c'est impressionnant. C'est quelqu'un qui s'est amusé à comparer la population totale, enfin le nombre de naissances totales de l'Europe plus la Russie au Nigeria. Et vous voyez qu'il y a davantage aujourd'hui de naissances chaque année au Nigeria qu'il y en a sur l'intégralité de l'espace qui va de Brest à Vladivostok, comme disaient les spécialistes de la sécurité européenne, cher Jean David. C'est impressionnant. C'est très impressionnant même. C'est parlant, en tout cas. Alors, j'aime pas trop ces mains qui nous font croire que le vieillissement, c'est forcément ça. Mais bon, j'ai pas trouvé... Enfin, PowerPoint ne m'a pas proposé d'autres... J'ai cherché, hein, PowerPoint vous suggère des illustrations, mais bon, rien trouvé d'autre. Le fait est que la proportion des plus de 65 ans, c'est-à-dire encore très jeunes, mais des plus de 65 ans dans la population mondiale en 2020 fait clairement apparaître, c'est l'image miroir de celle de tout à l'heure, un or, pour simplifier au sens culturel, qui est en gros où les pourcentages se situent entre 15 et 20%, et un sud dans lequel ces pourcentages sont extrêmement faibles. Et on voit aussi, bien sûr, que le nombre d'enfants commence à décroître. Il est stable aujourd'hui, mais il va commencer à décroître probablement d'ici une vingtaine d'années. On voit aussi que la population de l'Afrique dépassera celle de l'Asie. Alors là, il faut prendre les projections au-delà de 20 ans, même si la démographie permet de faire, comme dans le domaine de l'énergie, c'est les deux domaines dans lesquels vous pouvez faire des projections à très long terme, enfin quand même, avec beaucoup d'incertitudes, avec des marges d'incertitudes et quelques pincettes. Mais vous voyez quand même qu'il est troublant de voir que, selon la projection mondiale, médiane de l'ONU, en 2065 à peu près, l'Afrique sera plus peuplée que l'Asie. Et ça, c'est aussi un indicateur extrêmement intéressant, notamment pour les économistes. Cher Philippe Aguillon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le ratio de dépendance, c'est-à-dire le ratio entre la population active et la population par convention considérée comme non active, à savoir moins de 15 ans et plus de 65 ans. Là aussi, vous voyez que il y a une exception, il y a une exception africaine. Parallèlement, la notion même de population active évolue, à savoir que le nombre de personnes qui sont en âge de travailler, c'est une catégorisation qui évolue selon les époques, les cultures, les pays et les modèles économiques. Il est évident que lorsque, je crois que c'est Bismarck qui avait proposé que l'âge de la retraite soit 65 ans, ça vient de là, hein, 65 ans. Pourquoi ? Parce que c'était en gros l'âge auquel mouraient tous les ouvriers. Et donc, ils ne prenaient pas de grands risques à instituer un régime de retraite. Alors, pardon, M. Larosière, si ce n'est pas ça, vous me... Ah non, ça, pardon. Donc, j'ai craint un instant d'être contredit par une éminence qui connaît le sujet beaucoup mieux que moi. Mais, de mémoire, lorsque Bismarck fixe l'âge de la retraite à 65 ans, c'est une innovation. Mais c'est à peu près parce que c'est l'âge où les ouvriers allemands meurent, tout simplement. Donc ils ne prenaient pas de grands risques. Mais évidemment, aujourd'hui, on travaille de plus en plus tard, selon les pays, bien sûr. La population en âge de travailler, la population dite active, vous voyez son évolution. Donc là, ça a été fait en 2018, mais l'évolution est quand même très claire. Ce qui est intéressant, c'est les deux courbes du haut, la Chine et l'Inde. J'en dirai un mot tout à l'heure à propos des conséquences géopolitiques. La Chine, ça va décroître assez rapidement. C'est déjà en train de décroître. La population active chinoise décroît très rapidement. Celle de l'Inde ne devrait pas commencer à décroître avant 2050. Ça dit quelque chose sur l'avenir économique de ces pays. Alors, celle-ci, là encore, sous le contrôle de Philippe Aillon et d'autres économistes dans la salle. Je la trouve très intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une projection à très long terme du PIB mondial, à partir notamment des données démographiques. Autrement dit, et je crois que ça va être un des grands sujets de débat, d'autant plus que cette relation entre force de travail et PIB est peut-être appelée à évoluer, là je m'efface devant les économistes, avec l'intelligence artificielle et la robotisation. Mais globalement, une population active qui décroît, historiquement, ça a plutôt, cher Jean-Claude, plutôt conduit à une stagnation économique. Une décroissance durable de la population active, à ma connaissance, n'a jamais conduit à des résultats mirifiques sur le plan de la croissance économique. Et au résultat, lorsqu'on essaye prudemment de modéliser l'impact sur les économies mondiales de l'évolution de la population active, on voit, il y a plusieurs modèles qui vous donnent cela, que, pour simplifier, oui, la Chine va devenir, alors en PIB nominal, hein, la première puissance mondiale, mais c'est provisoire. L'Amérique va reprendre sa place de numéro 1 parce qu'elle a une démographie relativement plus favorable, beaucoup moins défavorable que celle de la Chine. Alors évidemment, là, on est en 2100, hein, donc soyons très prudents. Mais le point ici, c'est de dire que si cette relation entre population active et produit intérieur brut continue d'être celle que nous avons connue par le passé, eh bien, dans ce cas, les conséquences pour le PIB pourraient être très défavorables pour la Chine et, à l'inverse, beaucoup plus favorables pour les États-Unis. Et avant d'aller plus loin, je vais peut-être reprendre l'exposé de manière plus littéraire, en tout cas sans slide, pour ne pas vous assommer de chiffres, et pour essayer d'aborder ce thème justement de la, des conséquences géopolitiques des évolutions que nous allons, qui ont commencé. Peut-être quand même, pardon, je vais terminer sur parce que c'est tout de même assez impressionnant, la perspective de la décroissance démographique. Alors, ici, ce sont les naissances et les décès projetés. Donc, lorsque je vous disais que le pic de la population mondiale pourrait intervenir vers 2050-2080, bon, ça c'est les projections médianes de l'ONU de 2022. Il y a d'autres projections. Hein, l'ONU a ses propres projections. Il y en a d'autres. L'ONU ne dit pas... Enfin, il ne faut pas s'arrêter à l'ONU. Quand il y a notamment des instituts, des think tanks, des centres de recherche. Il y en a 3 ou 4 dans le monde qui font des projections extrêmement intéressantes. Et là, pour l'ONU, c'est plutôt 2080. On dit souvent qu'aujourd'hui, l'ONU est peut-être trop optimiste. Moi, je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est le cas ou pas, mais la plupart des projections alternatives sont plutôt avant, plutôt vers 2060-2080. Et pour illustrer ce que je viens de vous dire, on voit par exemple, là, une projection de l'Université de Washington, une étude de l'Université de Washington, en vert, je ne sais pas comment on dit, je suis très mauvais en couleur outre-mer, je ne sais jamais si c'est outre-mer ou turquoise, c'est l'un ou l'autre. Et vous voyez cette décroissance beaucoup plus rapide. C'est à droite, le petit sucre d'orge là. C'est le petit sucre d'orge turquoise. Alors que l'ONU reste, elle, plus optimiste. Et ça nous donne ce modèle de l'ONU. En 2100, une population stable ou en décroissance. Et une Afrique qui a complètement changer de visage démographique, puisque vous voyez qu'entre 1950 et 2100, avec toutes les incertitudes des projections, on a quand même quelque chose qui est tout à fait impressionnant. Alors, les aspects régionaux, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je reviens à mon livre des proverbes. La gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets. Je crois que ce n'est plus vrai. Lorsque l'Inde est devenue la première puissance mondiale au sens du nombre, il y a 2 ans, ça n'a pas changé sa place dans le monde, ça n'a pas radicalement altéré la perception que nous avons de l'Inde et sa puissance, son pouvoir sur tous les plans. On voit tous les jours que dans les conflits militaires, la taille de l'armée Et la capacité à régénérer une armée, c'est quelque chose qui compte beaucoup moins que par le passé. Un des grands sujets aujourd'hui pour la Turquie, pour la Russie, pardon, je ne sais pas ce que mon inconscient géopolitique a voulu me dire, j'ai failli dire Turquie à la place de Russie, c'est que la Russie s'approche du moment où elle ne peut plus régénérer la quantité suffisamment, bon, comme on dit, hein, on dit régénérer, ce n'est pas très beau, mais c'est en termes militaires, elle ne peut plus régénérer la population qui va sur le front. Alors, M. le Grand Rabbin parle du taux d'attrition, mais ça va au-delà du taux d'attrition. Le taux d'attrition est tel que la régénération n'est plus possible. En tout cas, que la Russie ne semble plus avoir les moyens d'attirer financièrement suffisamment de conscrits dans des républiques de Touva ou autres pour pouvoir aller se battre. Le nombre continue de compter, mais le mode de recrutement est plus important. Si l'Ukraine a eu autant de difficultés, c'est aussi parce qu'elle a toujours refusé de mobiliser la partie de sa jeunesse sur laquelle elle compte pour sa reconstruction. L'Ukraine aurait pu faire un choix différent, de faire un âge de conscription très bas, au bénéfice du nombre, mais avec comme prix à payer le fait, malheureusement, d'avoir un taux d'attrition, justement, de cette jeunesse qui est l'avenir du pays, comme c'est l'avenir de tous les pays, qui aurait été tout de même extrêmement problématique. Je reviens sur mon point de tout à l'heure, sur l'impact de la décroissance démographique, notamment de la baisse de la population active, sur l'économie. Une des grandes questions va être la suivante, pour la Chine. Est-ce que cette décroissance, qui, je le répète, va très très vite, or pour un pays aussi peuplé, c'est tout de même quelque chose dans les chiffres, se traduit par des quantités extrêmement importantes. Quel va être l'impact de la baisse très rapide de la population active chinoise sur la croissance chinoise et de manière générale sur sa modernisation ? La Chine a-t-elle trouvé ou va-t-elle trouver, via son formidable développement technologique et scientifique, la recette, si j'ose dire, pour changer de modèle économique et pour que la règle que nous connaissions, enfin, la règle générale que nous connaissions jusqu'à présent, à savoir impact négatif sur le PIB de la décroissance démographique et notamment de la population active, ne soit plus valable. C'est une possibilité. La transformation chinoise est tout de même un phénomène, à ma connaissance, par sa rapidité et son caractère massif, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de croissance forte et durable sans croissance démographique. Et donc, l'autre phrase des proverbes, la dépopulation ruine le prince, c'est plutôt celle-ci qui a une validité, semble-t-il, dans la durée. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Le vieillissement de la population mondiale, où je le répète, le monde prend de l'âge, mais entre dans l'âge adulte, on va dire, pourrait rendre le monde plus pacifique. C'est l'hypothèse qu'a nommé un chercheur américain qui s'appelle Mark Haas, qui appelait ça la paix gériatrique. Geriatric peace. Pourquoi ? Parce qu'il y a un théorème de science, enfin plutôt une formule de science politique qui dit que les démocraties ne se font pas la guerre entre elles. On appelle ça la paix démocratique. Ça remonte à Kant. Enfin voilà, c'est quelque chose de bien connu. Donc si les démocraties ne se font pas la guerre entre elles, si le monde devient plus démocratique, il y aura moins de guerres. En tout cas entre États. Je dis bien entre États. Et donc Mark Haas, lui, il parle de la paix gériatrique. Les sociétés vieillissantes sont, c'est vrai, généralement plus pacifiques. Partout dans le monde, la violence, sous toutes ses formes, elle est très majoritairement le fait de jeunes hommes. C'est comme ça. Bernard Kouchner disait, dans une formule que je trouvais intéressante, il avait dit, « Ma grande explication du monde, c'est l'hormone mâle. » La formule avait le mérite de, justement, mettre en exergue ce point qui est encore une fois universel. Ce sont les jeunes hommes qui sont les plus violents dans toute l'histoire de l'humanité. Oui, je sais, vous voyez les images de ce qui s'est passé à Paris avant-hier. Bon, c'était pas de commentaire là-dessus, mais c'est cohérent. C'est cohérent, en tout cas, c'est pas incohérent. Alors, la grande question, c'est de savoir, du point de vue de la conflictualité, est-ce que le continent qui a été le plus chrysogène, plutôt qui a connu le plus de conflits, non pas entre États, mais de guerres civiles et de conflits internes ? L'Afrique. Est-ce que ce continent va, au fur et à mesure qu'il devient moins jeune, est-ce qu'il va se pacifier ? Il y a alors là une théorie, des théories très intéressantes sur la relation entre la structure par âge d'une population. Je vous fais grâce des chiffres exacts, d'autant plus qu'il y a plusieurs théories, plusieurs formules possibles. La structure d'âge d'une population et sa propension à la violence. Non pas le nombre de jeunes, mais la structure d'âge. Et si on suit ce principe, à savoir que, en gros, le ratio entre le nombre de jeunes et les ratios et le nombre de dépendants, lorsque ce ratio évolue en défaveur du nombre de jeunes, eh bien, la société a moins de chances, c'est probabiliste, de connaître une guerre civile. On appelle ça les bosses de jeunes, ou plutôt, mauvaise traduction de youth bulge, c'est-à-dire un renflement de la pyramide des âges. Et donc, si il y a effectivement ce vieillissement et cette résorption des bosses de jeunes, on peut espérer qu'à l'horizon, alors pas maintenant, et puis ça fait une belle jambe, pardonnez-moi, mais aux Ukrainiens, ou aux Iraniens, aux Israéliens et aux Russes, mais en tout cas que la propension générale en moyenne de l'humanité à se faire la guerre pourrait, du fait de la démographie, être un petit peu moins forte. Sur les conséquences géopolitiques, il y a un point qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est bien sûr la question migratoire. On le voit presque tous les jours désormais en France et ailleurs, il y a une partie du débat sur l'immigration qui est axée sur la question économique, sur la question de la force de travail, et une autre partie du débat qui est axée sur les questions culturelles, les questions d'immigration. Alors, évidemment, ces deux débats ont toujours eu du mal à se rejoindre. Je ne souhaite surtout pas opposer ceux qui mettent en avant un besoin évident de force de travail contre ceux qui disent il ne faut surtout pas raisonner comme cela. Non, il faut, et c'est très difficile dans le domaine migratoire, raisonner avec toutes les composantes du sujet, sans prétendre qu'il y a des évidences qui ne se discutent pas. On est dans un domaine dans lequel il y a peu d'évidences qui ne se discutent pas. Mais de manière un peu provocatrice, je me souviens dans un papier que j'avais fait il y a quelques années, j'avais posé l'équation en disant, voilà, la force de travail française, la population active française, dans un scénario avec migration constante, enfin d'autres que moi l'ont fait. Donc j'avais posé les thèmes du débat pour dire, au fond, on va avoir un débat sur le thème, est-ce que nous souhaitons le déclin économique ou le déclin démographique ? C'était pour grossir le trait. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je le mentionne ici, c'est que, alors je ne répondais pas à la question, c'est un choix politique, c'est un choix de citoyenne et de citoyen surtout. J'avais dit que lorsque je disais cela, dans des milieux, on va dire, plutôt conservateurs, j'avais entendu plusieurs fois l'argument suivant en réponse, mais pourquoi ne serions-nous pas le Japon ? C'est très bien d'être le Japon. Et cette référence au Japon, j'ai trouvé intéressante parce qu'elle est relativement récente en Europe. Et évidemment, ça ne clôt pas le débat, parce que être le Japon, il faut voir ce que ça veut dire. D'abord, comme on dit souvent quand on compare Japon et Chine, le Japon, il s'est enrichi avant de vieillir. Et comme on le dit souvent, la Chine vieillit avant de devenir riche. Donc c'est déjà un pays très riche. Et puis, quand on connaît un petit peu le Japon, statistiquement, on doit avoir 10, 20 personnes ici qui connaissent un peu, peut-être même très bien, le Japon. Dès qu'on sort de Tokyo, c'est pas très rigolo, le Japon. C'est pas très gai. C'est même très triste. Des villages entiers, des régions entières qui sont complètement dépeuplées. Et c'est un pays qui se pose la question aujourd'hui de l'immigration, sans y répondre de manière facile. Mais le Japon connaît un déclin démographique profond. Le problème des pays d'Asie de l'Est, c'est que encore moins que certains pays d'Europe ou dits occidentaux, pour eux, l'immigration n'est une évidence. Ça n'est pas du tout une évidence pour eux. Ça ne l'a jamais été. Japon, Chine, Corée. Mais en tout cas, quand on dit aux Japonais, il y a des Français qui voudraient être le Japon, ils sont perplexes. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Il faut savoir ce que veut dire ce scénario. Il y a, chez les Japonais, quand on parle des questions démographiques, il y a un scénario qui dit, il y a un scénario pour nous qui est l'acceptation du déclin et nous passons sous l'orbite chinoise. Voilà, c'est un scénario. Mais mon propos n'est évidemment pas de dire tel ou tel scénario est plus souhaitable ou pas, mais de dire que dans ce domaine-là, il faut avoir pleinement conscience des implications de tel ou tel choix, de telle ou telle préférence politique. Et c'est d'autant plus important que les sociétés vieillissantes sont plutôt conservatrices, en tout cas en moyenne un peu plus conservatrices, et donc souvent encore plus réticentes à accepter le principe même de l'immigration. Et on voit bien dans les pays comme l'Italie, par exemple, que ce qui pourrait être perçu comme du point de vue simplement comptable, comme une évidence, l'Italie, entre guillemets, a besoin de migrants, ben, ça n'est absolument pas une évidence pour la majorité des Italiens. Un dernier point sur cette question migratoire, ce qu'on a appelé, je voudrais faire un sort à la notion de migration climatique, qui est souvent présentée comme une évidence. Le problème, c'est qu'on simplifie une équation complexe. L'équation dans le débat public sur les migrations climatiques serait la suivante. Réchauffement implique manque de ressources implique migration massive et lointaine, et voire des conflits. C'est une équation beaucoup trop simple et dont on peut contester chaque terme. Et sans aller trop loin sur ce sujet, je m'étais plongé dans ce qu'avait dit l'avant-dernier rapport du GIEC sur le sujet. Je dis bien l'avant-dernier parce que le dernier n'en parlait plus. Et en fait, il démontait purement et simplement la notion de migration climatique. Pour qui voulait bien lire ces rapports avec honnêteté intellectuelle, en gros, la conclusion qu'on en tirait, c'était les migrants climatiques, ça n'existe pas. Il y a des déplacés environnementaux, c'est-à-dire des gens qui, plutôt que de migrer vers d'autres continents, vont plutôt migrer dans le pays d'à côté ou dans une zone du pays concerné. Donc on parle de déplacement plus que de migration. Le déplacé reste dans son pays. Le migrant sort de son pays pour plus d'un an. Et les causes attribuables au changement climatique étaient assez peu facilement décelables. Le signal climat n'était pas particulièrement fort au regard du signal crise environnementale en général, parfois causée par l'homme d'ailleurs. Donc méfiance à mon sens sur ce point. Je vais terminer par les conséquences général sur les grands rapports de force internationaux de ces évolutions démographiques. Alors d'abord, je ne vous surprendrai pas en disant que parler de Nord-Sud me semble plus guère pertinent. La notion même de Sud global, je trouve qu'elle est... Merci, cher Jean-David, de votre moue. Elle m'aide à mettre en avant les doutes extrêmement forts qu'on peut avoir sur cette notion. On peut mettre ensemble les BRICS, mais ça ne veut rien dire. Les BRICS, c'est un club, et un club, d'ailleurs, qui ne produit pas grand-chose. Donc les totaux arbitraires n'ont pas beaucoup de sens. Donc quand on parle de rapport de force, parlons plutôt quand même soit de familles bien établies, comme les pays de l'OCDE, parce que l'OCDE, contrairement aux BRICS, voilà, aux BRICS, si vous voulez être candidat aux BRICS, il faut juste être accepté par les autres membres. Quand vous voulez être candidat à l'OCDE, ben, il y a les vrais critères objectifs. Donc totaliser, faire des grandes masses comme ça, ça ne me semble pas très utile. Mais il y a trois points qui me semblent importants et qui peuvent être discutés. D'abord, l'apparition de ce que j'appellerais les méga-émergents, l'Indonésie, le Pakistan et le Nigeria. Indonésie, Pakistan, Nigeria, comme on dit en journalisme, retenez bien ces noms, vous les connaissez déjà, mais leur croissance démographique et surtout pour l'Indonésie, leur potentiel économique, puisque l'Asie de l'Est a quand même, là, pour le coup, une combinaison de facteurs démographiques et économiques tout à fait favorables. Je dirais pas forcément la même chose du Pakistan, ni du Nigeria. Donc l'apparition des méga-émergents, avec sans doute des conséquences économiques, et donc, in fine, quand même politiques pour le pays, pour l'Indonésie. Deuxième point, j'avoue que j'avais fait ce calcul, je n'avais jamais fait ce calcul avant, l'affaiblissement du poids symbolique des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, en 1945, c'était 40% de la population mondiale. Alors, en prenant la Chine de manière un peu arbitraire, puisque la Chine, à l'époque, c'est Taïwan. Bon, bref. Aujourd'hui, c'est 23%. C'est pas la même chose. Donc le problème de la représentativité des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui existe déjà même sans prendre en compte le facteur démographique, est encore plus criant quand on introduit la variable démographique. Et c'est surtout vrai, je pense, pour la Chine et la Russie. Alors, cher Jean-David, vous pouvez vous boucher les oreilles si vous le souhaitez, mais j'ai lu un jour que le président Nicolas Sarkozy, après, il ne recevait plus, à ma connaissance, pas officiellement en tout cas, vos conseils, Nicolas Sarkozy tirait argument de l'affaiblissement démographique de la Russie pour dire, je cite, qu'elle ne peut pas être agressive. Parce qu'un pays, disait-il, un pays déclinant sur le plan démographique ne peut pas être agressif. C'est évidemment totalement faux. Et le sentiment du déclin peut être, justement, au contraire, malheureusement, un facteur d'agressivité. Le troisième point, avant de terminer sur quelques conséquences politiques régionales ou nationales, c'est une interrogation. C'est, peut-on dire que, finalement, dans les pays qui ne s'en tirent pas trop mal du point de vue démographique, il y a quand même un certain nombre de pays démocratiques qui, l'Europe étant mise à part, qui pourraient nous donner une perspective plutôt positive, en tout cas pour nous qui vivons dans des démocraties libérales. Quand on regarde les pays plutôt en forme sur le plan démographique, on a notamment les États-Unis, l'Inde, Israël. Je dirai un mot sur Israël tout à l'heure parce qu'il y a une exception israélienne. Ce sont quand même des pays qui sont plutôt en forme démographiquement, avec des conséquences positives sur le plan économique. L'Inde, sa population active, va bientôt dépasser celle de la Chine. Formule facile que je vous propose, quand la Chine grisonnera, l'Inde s'ébrouera. C'est un peu facile, mais c'est pour montrer quand même qu'il y a là quand même un pays qui va prendre la place d'un autre, attention, sans avoir le même potentiel de croissance phénoménal de la Chine pour tout un tas de raisons. Et donc, si vous voulez, il y a la famille eurasiatique à laquelle nous appartenons, sur le plan démographique, qui n'est pas en forme, et un autre groupe de pays qui sont plutôt des pays, je dis bien plutôt, des pays démographiques. Et c'est ça qui rejoint ce que je mentionnais tout à l'heure à propos des États-Unis et de la Chine, de leur balance relative en termes de production. Le facteur démographique donne plutôt à long terme un avantage à l'économie américaine. Je dis ça de manière brute, avec beaucoup de prudence, et encore une fois, comme on dit, toutes choses égales par ailleurs. Dernier point sur quelques focus régionaux qui me semblent utiles. Pardon, cher Jean-David, je m'arrêterai dans 5 minutes, mais 5-10 minutes. D'accord, merci beaucoup. J'ai un petit peu plus de temps que prévu. Je voudrais dire un mot, justement, j'en parlais, un mot d'Israël. Parce qu'Israël est une exception dans le monde, dans ce monde plutôt démocratique et libéral. Mais la première chose qu'il faut noter, c'est que le thème que nombre d'entre nous avons connu il y a autant, souvent lointain pour certains d'entre nous, de nos études, c'est que il y avait la menace du nombre, la menace du ventre. Exactement. J'allais dire du ventre arabe. Monsieur le grand rabbin, je vous remercie, vous m'avez ôté les mots de la bouche. Mais c'était perçu comme ça. Et d'ailleurs, instrumentalisé comme ça, Yasser Arafat lui-même avait parlé du ventre de nos femmes qui nous donnerait la victoire. Aujourd'hui, la question ne se pose plus du tout dans ces termes. Plus du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une exception israélienne, parce que pour un pays démocratique, c'est vraiment, en termes de fécondité, c'est extrêmement élevé. Alors, tous, comme une seule femme, comme un seul homme, vous allez me dire, c'est bien entendu la religion. Ben, c'est pas aussi simple. Parce que oui, bien sûr, le taux de fécondité des Haïdim, des ultra-orthodoxes, est extrêmement élevé. Mais même les... Alors, je ne sais jamais, les laïcs, les séculiers, je ne sais jamais comment il faut dire, peu importe. Ce taux-là est supérieur à celui de la plupart des sociétés occidentales, modernes, des sociétés libérales. Et donc, tout ceci fait une exception israélienne sur laquelle les démographes israéliens, mais ça, c'est bien un débat juif, il y a 10 000 avis différents, et c'est du débat, du vrai débat, et c'est passionnant. Voilà, il n'y a pas une explication comme ça. Chacun y va de son explication et de son avis, mais c'est extrêmement intéressant à suivre, parce que c'est vraiment une exception. Ça veut dire aussi que, selon certaines projections, il y aurait quasiment un tiers d'ultra-orthodoxes en Israël en 2065. Attention, on prolonge des courbes. Le danger de prolonger des courbes, enfin, on prolonge des courbes pour l'illustration, pour faire réfléchir, pas forcément pour dire l'avenir. Deuxième point qui me semble intéressant, c'est qu'on remarque, je vais vous montrer une ou deux cartes rapidement avant de terminer, c'est que la fécondité la plus forte se trouve souvent chez les populations les plus rétives. Alors, je ne vais pas parler de l'Europe, non. Je vais parler de la Chine, de la Turquie et de la Russie. Quand vous allez voir les taux de fécondité dans certaines régions de Chine, de Turquie et de Russie, vous dire qu'il est possible que ça ait, in fine, des conséquences politiques. Je vais vous montrer ces quelques planches, pardon, pour terminer. Voici la Russie. Alors, ne vous préoccupez pas si vous n'arrivez pas à les lire des chiffres exacts. Ce qui est important, c'est la couleur. Ce sont les TFR, donc Total Fertility Rate, c'est-à-dire indice conjoncturel de fécondité. Vous voyez en particulier, en bas à gauche, la Tchétchénie, et en bas à droite, c'est la République de Touva, que tout le monde ne connaît pas, qui n'est pas très grosse, hein, c'est tout près de la Mongolie, c'est moins important. Mais il y a au moins deux républiques, la Tchétchénie et l'Ingouchie, qui ont des taux de fécondité extrêmement élevés. Donc c'est ce qu'on appelle la périphérie de l'Empire. Et même sans être spécialiste de l'histoire russe, on sait qu'entre les Tchétchènes et les Russes ethniques, ça a souvent été compliqué. Ça, c'est la Turquie, donc vous voyez bien que tout de suite, ce qui frappe, c'est le Kurdistan. Donc ce sont les données officielles turques de 2025. Et donc on voit une fécondité moyenne au Kurdistan beaucoup plus élevée que dans le reste du pays. Et enfin la Chine. Alors en fait, là c'est un peu le code couleur est un peu trompeur, parce que tout ça reste extrêmement faible. Mais dans cette faiblesse est relative. Autrement dit, au Tibet, 1,49, alors que c'est un indice de fécondité qui est bien en deçà du seuil de remplacement, mais c'est beaucoup plus que Pékin et encore plus que la Mandchourie. Alors, le nord de la Mandchourie, Heilongjiang, c'est 0,5 enfants par femme en moyenne. Là encore, ça dit quelque chose. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence concrète, je ne sais pas, mais c'est tout de même parlant. Un petit focus sur l'Europe aussi. Quand je vous parlais de la triple peine démographique des pays d'Europe centrale, c'est l'évolution totale, je dis bien totale, de la population sur 32 ans. Et notamment l'effondrement de la Bulgarie, de la Bosnie et des pays baltes, sans parler de l'Ukraine, bien sûr. C'est assez troublant. Alors, ça commence à changer un peu pour une partie de ces pays, notamment avec les retours de ceux qui sont partis chercher du travail dans les années 90 et 2000. Alors, oui, M. le Grand Rabbin, Israël est à 104,3% entre 90 et 2022. Alors, je ne sais pas comment ça a été calculé pour la Syrie, parce que pour avoir des données fiables avec... Encore une fois, ce sont les grandes masses, les grandes tendances qui sont intéressantes. On a parlé de l'Europe et de la Chine, et l'Europe n'est pas en très bonne posture, mais la Chine encore moins. Et cette petite projection est très intéressante parce qu'elle vous dit qu'en 2030, il est possible qu'il y ait encore moins de naissances en Chine qu'il y en a en Europe. Alors moi qui ai appris dans mon enfance Jacques Dutronc, 700 millions de petits Chinois, on a appris aussi, vous vous en souvenez, l'explosion démographique. Vous voyez quand même qu'on est passé, dans un autre monde. Une Europe plus grise, proportion de la population européenne âgée de plus de 65 ans. Vous voyez qu'en Europe, on a quand même non pas un record, parce que l'Asie n'est pas mentionnée ici, mais par rapport à l'Amérique du Nord ou l'Australie, un vieillissement plus rapide. Alors, une petite illustration de ce que je vous disais à propos de l'avenir de l'Union européenne, de l'avenir de l'Europe, avec ou sans migration, et des choix complexes, qui devront, à mon sens, tenir compte de paramètres économiques, certes, mais aussi culturels, politiques, et qui sont des choix de citoyens et des choix politiques fondamentaux. À supposer, je dis bien à supposer, que ça se présente comme ça, quel avenir préférez-vous ? Celui de la courbe jaune ou celui de la courbe verte ? Moi, je n'ai pas la réponse. Et là encore, ça, puisque la réponse, elle appartient à chacune et chacun d'entre nous. Mais la représentation est intéressante, parce que le questionnement, je crois qu'il nous appartient, tous. Et enfin, sur les migrations, et je terminerai par cette planche, lorsque je vous parlais de la stabilité du taux de migration dans le monde, encore une fois, c'est une moyenne, c'est la ligne rouge, 3,7%, alors qu'on était à 3% en 1980, 3,1 ou 2% en 1990, aujourd'hui 3,7%. Donc, ça n'est pas le message, c'est que la propension migratoire n'a pas tendance à augmenter de manière phénoménale en moyenne au niveau mondial. Je termine sur ces mots parce que je sais qu'une fois qu'on a dit en moyenne au niveau mondial, en fait, on n'a rien dit. Donc, je ne vous ai rien dit, mais j'espère vous avoir au moins aider modestement à réfléchir un petit peu, un peu plus, un peu mieux, en tant que personnalité du monde universitaire, académique, en tant que citoyenne et citoyen, à ce sujet qui, par définition, nous concerne tous.
Cher Bruno, bravo. C'était absolument passionnant.